www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Merci. Alors, on est là ce soir pour parler de la publicité dans l'espace public. Lucas Luisoni et moi-même, Adam Salem. Lucas va commencer par présenter l'état de l'initiative, où on en est avec l'initiative Genève Zéro Pub à Genève. Et puis ensuite, moi, je vous parlerai plus généralement des problématiques qu'on a soulevées avec la publicité, et en particulier les problématiques qui nous sont chères en ce qui concerne l'affichage publicitaire. Et après, on va faire une petite présentation d'environ une demi-heure au total. Et puis ensuite, vous serez libre de poser toutes les questions que vous voulez. Et donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. Et voilà, je vous laisse la parole à Lucas.
Merci beaucoup. Donc, je vais faire un petit historique pour mentionner d'abord que le ROC s'est constitué en novembre 2008, qui s'est fait lors de la journée sans achat, qui a lieu toujours le dernier week-end de novembre. C'est une c'est une journée mondiale sans achat, mais la particularité genevoise fait que c'est aussi la journée du partage à Genève. C'est une particulière. Et puis c'est le week-end qui suit le Black Friday. Donc c'est quand même un bon moment pour éventuellement parler des excès publicitaires. Et puis on a mené très régulièrement, annuellement, des activités contre les publicités ou des actions anti-pub. Vous en avez peut-être vu quelques-unes lors de la journée sans achat, lors de la journée mondiale anti-pub qui a lieu en mars. À d'autres moments, on a fait des campagnes qu'on appelle « Nuit gravement au climat » ou sur les affiches qui font la promotion, par exemple, des véhicules 4x4 ou des vols low cost, on fait comme pour le tabac, au lieu de mettre « Nuit gravement à la santé », on met « Nuit gravement au climat ». On a fait aussi des campagnes sur les trams dans lesquelles on disait « Notre attention n'est pas à vendre », etc. Et puis, dans la charte du ROC, que vous pouvez trouver sur décroissance.ch, dans la charte du ROC Genève, on met une mention qui dit que les membres du ROC s'engagent pour une information honnête et responsable contre les pratiques manipulatrices de la publicité. Et puis, on a réfléchi aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin dans une logique politique, en réfléchissant aussi à ce qui se passe avec la publicité sur le tabac, etc. Et puis, l'occasion s'est présentée en janvier 2017 à Genève, où, lors du changement de l'annonceur de la SGA à Neo Advertising, on a vu tout d'un coup fleurir des panneaux blancs dans la ville de Genève. Des panneaux blancs qui étaient, semblerait-il, destinés à faire une forme de rétorsion, parce que c'est l'annonceur sortant qui a dit « Regardez comme c'est triste la ville avec des panneaux blancs, on ne peut pas les laisser à l'annonceur entrant annoncer tout de suite ». Et puis, la population s'en est un peu accaparée, soit pour des raisons artistiques, soit pour des raisons de slogans, etc. Et on a vu fleurir toute une série de messages sur ces panneaux mis à disposition, entre guillemets, de la population pendant une quinzaine de jours. Et sur cette base-là, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit « Tiens, on pourrait faire quelque chose au niveau politique ». On s'est réunis dans le cadre des Vendredis de la Transition. Vous connaissez peut-être tous les vendredis à la Maison internationale des associations. Vous avez une sorte de forum libre. Tout le monde peut y venir pour amener une idée ou une réflexion qui va ensuite prise par un certain nombre de personnes qui peuvent représenter ou non des associations et qui vont dire « Tiens, on va réfléchir là-dessus ». Donc le ROC s'est dit « On va proposer une initiative municipale contre la publicité dans l'espace public, la publicité commerciale ». Et puis, il y a eu des prises de tête. Typiquement, au début, on dit « Ah, on va interdire les mauvaises pubs et puis on va autoriser les bonnes ». Puis ça, légalement, c'est difficile parce qu'on n'a pas tous le même avis sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais, etc. Et puis, on a abouti, après un processus assez long de quelques mois, à un texte qui a été déposé le 7 juillet 2017 et qui disait « Zéro pub, libérons nos rues de la publicité commerciale », qui chargeait les autorités de la ville de mettre en œuvre une politique cohérente de gestion de l'affichage dans le respect de la législature cantonale en appliquant les principes suivants. La première, c'était de privilégier la qualité du paysage urbain genevois en libérant l'espace public de la publicité commerciale par voie d'affichage. Ensuite, c'était de faciliter la mobilité de tous, et en particulier des personnes qui peuvent être en situation de handicap, dont les malvoyants, par exemple, en supprimant les panneaux qui font obstacle au déplacement par leur emprise physique sur les espaces piétonniers, parce qu'il y a quelques exemples à Genève. Ensuite, c'était de mettre à disposition des associations et institutions locales des panneaux permettant la communication par voie d'affichage. En fait, c'était de reproduire ce qui s'était fait en janvier, en disant « on va mettre des panneaux blancs pour que les gens puissent s'exprimer ». Et puis, on va limiter l'affichage aux associations à but non lucratif, aux informations de type événementiel, pour que ces événements artistiques et culturels soient présentés à Genève parce qu'ils ont une vocation d'information locale. Et puis, la mise à disposition des habitants des panneaux vierges pour l'expression libre. Et puis, on demandait en 5 de conserver un équilibre entre expression libre et puis expression de publicité associative, caritative, culturelle et événementielle sur l'espace public, avec une accessibilité privilégiée pour les organisations à but non lucratif. Et puis, comme dans toute initiative, on demande que les principes soient mis en œuvre par le gouvernement genevois, par le gouvernement de la ville de Genève, en appliquant ou en mettant en place des règlements d'application qui respectent la loi en général et qui permettent ce faire. On a commencé à récolter les signatures en début juillet, et puis on a déposé à fin novembre plus de 4000 signatures qui ont été validées en janvier 2018, en disant « l'initiative est recevable, elle a reçu un nombre suffisant de signatures de citoyens genevois qui s'expriment en faveur de celle-ci ». Et puis, le 23 mai 2018, le Conseil d'État a invalidé partiellement cette initiative en la vidant de sa substance, en supprimant les deux premiers articles qui s'attaquaient à la publicité commerciale. Et donc, nous avons fait recours auprès de la Chambre constitutionnelle contre cet arrêté du Conseil d'État. Et puis, on a fait ça en juin, il y a tous des délais, et nous avons obtenu gain de cause. La Cour constitutionnelle a condamné l'État, le Conseil d'État, d'une part à nous payer quelques émoluments qui nous permettaient de rembourser la moitié de nos frais d'avocat, c'est déjà pas mal, et puis ne pas charger des frais administratifs liés à ce processus-là. Et donc ça, c'était en juin 2018. Ensuite, en avril 2019, assez long, il y a eu un recours au tribunal fédéral, mais qui n'était pas cohérent parce qu'il n'était pas acceptable, parce que seul le Conseil d'État pouvait faire recours au tribunal fédéral contre la Cour constitutionnelle, j'en passe. Et puis en avril 2019, le Conseil d'État valide l'initiative en tous ses points, ce qui était pour nous une vraie victoire. Et puis on a une personne, monsieur Boris Calam, dont nous supposons, c'est un graphiste qui fait partie des Verts d'ailleurs, c'est un peu surprenant parce que le Parti des Verts de la ville a soutenu l'initiative, mais qui a déposé un recours contre cette décision favorable du Conseil d'État. Et donc, on a reçu le recours, on a pu commenter le recours, nous l'avons fait en juin. Comme chaque fois dans ces logiques de recours, chaque fois que quelqu'un intervient, les autres parties reçoivent cette intervention et on les invite éventuellement à faire des commentaires par rapport à ça. Donc en août, M. Calam a refait un commentaire par rapport à notre commentaire, et puis on en est là, on a reçu tout récemment une lettre de la Cour constitutionnelle nous disant que nous avons jusqu'au 20 septembre pour commenter le commentaire du commentaire du commentaire. Alors à un moment on va se dire, est-ce qu'on va jouer des logiques dilatoires? Je pense pas. Donc on va commenter simplement en disant qu'il n'a pas dit grand-chose d'autre qu'avant, et puis laissons la Cour juger, mais on verra. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation où la Cour constitutionnelle peut accepter le recours, Si elle l'accepte, la décision du Conseil d'État est invalidée. Le Conseil d'État peut réagir. Nous-mêmes pouvons éventuellement faire un recours au tribunal fédéral. Donc c'est assez compliqué, ça peut être assez long. Donc en tout état de cause et de connaissance de cause, alors que la ville avait donné ou avait pris position en disant « nous prendrons position en septembre de cette année concernant l'initiative », mais comme il y a un recours, ils ne peuvent pas le faire. Donc probablement, moi j'ai des doutes que ça ait lieu avant la campagne des municipales de l'année prochaine. Si c'est avant, ça pourrait être intéressant parce que ça permettrait éventuellement de stimuler les politiques sur ces questions-là. Nous verrons. Peut-être juste pour résumer l'exposé des motifs qui était écrit dans l'initiative. Alors, on mentionnait que la publicité commerciale nuit à la qualité du paysage et de l'urbanisme dans l'espace public. Et ça, c'est dans la logique quantitative, parce que si vous prenez tous les grands panneaux qui sont généralement les plus nuisibles au paysage, c'est tous des panneaux qui sont payés par la publicité commerciale privée, et généralement par des institutions ou des entreprises de taille importante. C'est pas le boucher du coin qui prend 5 mètres carrés pour annoncer que ses aloyaux sont moins chers, qu'elle constitue une pollution visuelle, et puis qu'elle mobilise notre attention sans notre consentement. Hein, on ne peut pas fermer les yeux si vous êtes en voiture, et puis vous dites « je ferme les yeux ». Par la pub, alors que sur un journal, vous pouvez quand même le fermer, la TV, vous pouvez l'arrêter, la radio, vous pouvez l'éteindre ou changer de chaîne. Donc on n'est pas dans cette situation-là par rapport à l'affichage public. Et puis ensuite, il y a des arguments qui disent que ça vise souvent moins à informer que plutôt à stimuler des désirs de consommation et de contribuer à la surconsommation. Et puis qu'en contribuant par la surconsommation, on a un impact important sur l'environnement. On parle beaucoup de climat maintenant, etc. L'affectation du climat par les activités humaines est essentiellement causée par la consommation matérielle des humains et des pays occidentaux plus particulièrement. Nous avions mis un petit mot sur la mobilité des personnes en situation de handicap. Et puis aussi un fait que le tissu économique local, les petits artisans et autres, la plupart du temps, les commerçants n'ont pas accès à cette publicité parce qu'elle leur est trop chère, et donc ils ne l'utilisent pas. Donc voilà ce qu'on a écrit. Alors maintenant, je vais passer peut-être la parole à Ada pour qu'elle donne un peu plus les éléments fondamentaux qui sont liés à l'opposition publicitaire, même si l'affichage en ville de Genève est une porte d'entrée sur ce débat.
Voilà, donc moi c'est Ada. Pour la petite histoire, il y a 4 ans exactement, j'étais à votre place. J'ai découvert la lutte anti-publicitaire lors d'une conférence à Alternativa donnée par des gens qui travaillent dans le journal Moins. Et puis ça m'a motivée et depuis lors, je suis impliquée dans la cause. Donc voilà, et puis on a fondé à la suite de Alternativa le GLIP, Genève libérée de l'invasion publicitaire, qui était issu du FLIP, qui est le Front de libération de l'invasion publicitaire, qui vient de Fribourg, donc FLIP, GLIP. Maintenant il y a le CLIP à Lausanne et bientôt le NELIP à Neuchâtel. Donc, et peut-être même le JURALIP, bientôt. Donc vous voyez, on se divise, ce qui est plutôt réjouissant. Donc moi je commencerai par vous dire que les spécialistes estiment que en moyenne, quotidiennement, on est soumis à 1000 à 2000 stimuli publicitaires. Et ça peut monter jusqu'à 15 000 si on compte les logos et les marques. Alors, on voit bien que dans cette situation, c'est nous, les personnes, qui subissons cette surstimulation d'images, de messages, d'injonctions d'acheter et de consommer. Et ce qu'on peut se demander en premier lieu, c'est pourquoi ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Et comment on en est arrivé là ? Et la raison, elle est toute simple, c'est que les marques et les entreprises, elles ont bien compris que la meilleure façon la façon dont le cerveau humain apprend le mieux, c'est par la répétition. Et donc, les marques veulent absolument faire une répétition de leur message, de leur marque, le plus possible pour que les gens retiennent leur marque. Et donc, en concurrence avec d'autres entreprises, il faut qu'elles dominent leurs concurrents en répétition et en visibilité. C'est comme ça qu'on arrive à une surenchère de la publicité, toujours où chacun veut être plus visible, plus répété que l'autre, et donc, ben, ça s'augmente, il n'y a pas de fin à la surenchère publicitaire, c'est ce qu'on appelle la pression publicitaire. Voilà, ça c'est pour la petite introduction. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par publicité ? Est-ce que la publicité, ça consiste à rendre les choses publiques ? Je crois qu'aujourd'hui, on va bien au-delà de ce système-là. La publicité, elle permet à des produits de devenir des symboles de réussite et de prestige. On le voit avec les voitures, on le voit avec les parfums, on le voit avec toutes sortes de produits qui sont devenus des produits de luxe parce que le but de la publicité et du marketing, c'est vraiment de rendre ces produits désirables, d'augmenter la désirabilité de ces produits pour pouvoir augmenter leur marge de profit, in fine. On peut dire aussi que la publicité, en aucun cas, elle est exhaustive sur les choix disponibles. Elle ne montre pas la totalité des choix pour que le consommateur soit conscient de ce qu'il est capable de choisir. Donc, elle nous montre ce qu'ils ont envie de nous montrer. Hein. Il n'y a pas tous les produits de l'assortiment qui sont disponibles en publicité. Et puis, bien souvent, on peut dire qu'elle n'est pas très honnête sur la qualité des produits. Elle nous dit ni où les produits sont fabriqués, par qui elles sont fabriquées, dans quelles conditions elles sont fabriquées. Donc, on n'a pas toutes ces informations qui pourraient nous permettre de rendre la publicité comme dire qu'elle informe. Donc, elle est vraiment malhonnête. Et puis, un aspect encore intéressant, c'est de voir comment la publicité, en fait, elle utilise elle confond les désirs et le besoin. Elle nous fait croire que c'est tout aussi respectable de satisfaire et d'assouvir ses besoins et ses caprices que ce qu'on devrait avoir pour satisfaire ses besoins primaires. Voilà. Et puis, tout ça, ça a comme effet sur nous de susciter de la frustration, beaucoup de manipulation émotionnelle, on le ressent. Beaucoup de nervosité aussi, je pense, surtout avec les écrans aujourd'hui. Des troubles de l'attention, je pense sérieusement que ça stimule tout le temps le cerveau, alors qu'on a besoin parfois d'avoir un peu d'espace, en nous mettant sans cesse des messages qu'on se croit forcé de lire, puis probablement un peu d'hyperactivité. Maintenant, je parle particulièrement de la spécificité de l'affichage publicitaire. Donc l'affichage publicitaire, c'est une utilisation de l'espace public à des fins commerciales. Donc c'est une location de l'espace public ou une vente de l'espace public, même si on ne peut pas vraiment le vendre. Ça pourrait se comparer par exemple à un food truck sur la place publique ou au cirque. Mais par contre, à l'inverse du food truck ou du cirque, c'est pas la possibilité de vendre des produits ou des billets de spectacle qui est donné aux entreprises, mais c'est l'accès direct à l'attention des passants. Et c'est ça qui est très très important, parce que vous avez probablement déjà entendu parler de l'économie de l'attention, qui est vraiment le terme le plus phare de notre 21e siècle. On sait que les entreprises, c'est ce qu'elles ont de plus précieux à chercher, c'est notre attention, notre regard. Et donc on est dans une logique où, en fait, en vendant de l'espace publicitaire, on vend de la contrainte visuelle. Et on est vraiment en train de vendre le regard des passants sans qu'on puisse choisir ou non de consommer, puisque consommer de la publicité, c'est déjà consommer. Et c'est ça qu'on est contre lequel on se soulève vraiment, c'est de dire on ne choisit pas de consommer ou non la publicité, à l'inverse, comme l'a dit Lucas, de la télé où on peut éteindre quand il y a la publicité, de notre boîte aux lettres où, en principe, on peut refuser d'avoir de la publicité, même si ce n'est pas toujours respecté. Mais dans la rue, on est contraint de regarder la publicité. On n'a pas cette liberté de recevoir, la liberté de réception. C'est un terme qu'on réutilise souvent. Voilà, ça c'est le cœur un peu de notre combat. C'est vraiment de dire, cette contrainte visuelle, c'est la ville qui vend notre attention, alors que c'est vraiment une de nos données les plus précieuses, c'est notre espace mental et c'est notre tranquillité d'esprit, hein, finalement aussi, qui est en jeu ici. Voilà, la publicité, il faut aussi réfléchir à une chose qui peut paraître évidente, mais qui ne l'est pas forcément, c'est que le prix de la publicité, il est payé par les consommateurs. Il est imputé sur le prix que les gens payent quand ils achètent le produit. Et pourtant, en regardant au niveau macro, au niveau global, l'effet de la publicité, c'est pas du tout une réduction du prix pour le consommateur que ça a comme effet. Au contraire, ce qui se passe dans les faits, c'est que bien souvent, les entreprises, elles se livrent à une guerre commerciale, à une guerre de marketing. Donc, comme je vous ai dit, elles vont chercher à dominer leurs concurrents en visibilité pour les éliminer du marché et ensuite avoir tout le loisir de fixer les prix comme bon leur semble. Et on a l'exemple assez excellent de Migros et de Coop, je pense, qui ont vraiment bombardé de publicité ces 50 dernières années, qui même aujourd'hui, les autres supermarchés comme Denner, mais je ne sais pas si vous savez aussi que Galaxus appartient à Migros, que Digitec appartient à Migros, c'est vraiment des groupes énormes qui ont une visibilité publicitaire très très importante. Et leur stratégie, il me semble, c'est d'asseoir leur visibilité marketing pour ensuite éliminer les concurrents et fixer les prix comme il leur semble. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va promouvoir une concentration des entreprises, une cartélisation et en fait, de fait, une élimination de la concurrence véritable, je dirais. Voilà, je finirai par dire que un des arguments qu'on nous oppose souvent, c'est que regardez en France, regardez dans d'autres pays, il y a beaucoup plus de publicité que chez nous en Suisse. Ça, c'est souvent un argument qu'on entend. Et alors, figurez-vous que c'est pas le cas. En Suisse, proportionnellement à la population, il y a beaucoup plus de publicité qu'en France et en Allemagne. Il y a 100 000 publicités en Suisse, de panneaux publicitaires en Suisse, alors qu'en France, il y en a 106 000 et en Allemagne, il y en a 345 000. Mais si on compare au nombre de populations, la pression publicitaire en Suisse est beaucoup plus forte qu'elle l'est en France et en Allemagne. Enfin, deux autres choses que je voulais dire. Il y a une étude toute récente que je vous conseille d'aller regarder, très intéressante. C'est des chercheurs qui ont fait une étude sur 27 pays où ils ont prouvé, en tout cas, qu'il y avait une corrélation négative entre les dépenses publicitaires et le bien-être des individus. C'est-à-dire, plus les dépenses publicitaires étaient élevées, moins les gens étaient heureux, disaient être heureux dans les pays. Ils ont fait ça sur 27 pays. Et donc, ils disent qu'il n'y a pas de causalité. On ne peut pas dire exactement qu'il y a une causalité. Mais en tout cas, il y a une forte corrélation entre les dépenses publicitaires et le mal-être, disons. Donc, ça alimente un peu notre débat pour dire, bon, la publicité, ça cause quand même des frustrations. C'est pas forcément les choses qui nous rendent le plus heureux, puisque justement, ça nous pousse à nous comparer aux autres. Ça nous pousse à vouloir des voitures qu'on peut pas se permettre. Souvent, c'est ça aussi l'idée. Et voilà, je crois que j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire. Peut-être une dernière chose aussi qui est intéressante à penser, c'est que on ne réfléchit pas très souvent au fait qu'on est dans un monde qui est en train de changer, qui est en train de se diriger vers, on l'espère, des politiques plus écologiques, et qu'il y a une contradiction inhérente entre dire aux gens, prenez moins la voiture, essayez d'utiliser un peu plus les transports publics, mais à côté de ça, la plupart des publicités qu'on voit encore aujourd'hui, c'est des gros SUV, des gros 4x4 qui nous miroitent que c'est le symbole ultime de succès et que chacun doit pouvoir avoir la chance d'avoir une SUV en ville et que tout le monde devrait rêver de ça. Donc il faut un peu réfléchir à un moment donné à est-ce que vraiment la publicité telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle le sera probablement toujours, elle est compatible avec les objectifs qu'on se dote dans notre vie en ville et dans notre vie en société. Voilà, je crois qu'on est bon. On avait dit avec Lucas qu'on allait
Moi, je voulais peut-être juste parler, prendre un petit texte que j'ai tiré d'une intervention de Patrick Vibray qui résume bien la problématique de la publicité, parce qu'on dit toujours, oui, mais ça dépend comment on communique et qu'est-ce qu'on communique qui fait que si c'est bien ou si c'est pas bien. Et donc, il écrit la chose suivante, ou plutôt il l'a dit: la communication n'est pas malhonnête par essence, mais comme elle s'inscrit dans un système où le mensonge est rentable, alors quelles que soient les bonnes volontés, elle est structurellement mensongère. Le capitalisme contemporain a généré une triple rupture pour les individus. Il les a éloignés de la nature, il a détruit les liens sociaux, et il les a aussi éloignés d'eux-mêmes par le matérialisme, par l'absence de vie intérieure. Du coup, la publicité s'est attribuée une fonction consolatrice. Plus cette triple rupture est grande, Plus la pub affiche une triple promesse intenable. Plus de nature, plus de lien, plus d'authenticité. Cette société de consolation est mensongère. Les mécanismes sont les mêmes que dans la toxicomanie. L'insatisfaction augmente au fur et à mesure que l'on tente de la combler. La pub, cette incitation à consommer plus, relève donc d'une forme de cynisme. Aucune société ne peut vivre durablement sur le cynisme qui génère le désespoir. Et je trouve ça assez remarquable. Et on avait dit qu'à la fin, juste avant de passer la parole, on donnerait chacun un ou deux exemples de publicité qui nous dérange vraiment. Alors pour ma part, j'en ai deux. D'une part, c'est toute la publicité sur les véhicules, d'ailleurs que sur la télé. Les véhicules, on les revoit tout le temps, tout seul, dans la nature ou volant dans des villes. Il y a même des publicités où elles ne sont même pas sur la route, elles volent dans les villes. Ce qui n'a rien à voir avec la réalité. Toutes les voitures qu'on voit, généralement, elles sont dans des embouteillages la plupart du temps. Et puis l'autre chose, c'est souvent tout ce qui est lié aux produits agricoles. Je suis agronome de formation, la production. Et puis l'autre jour, je vois une affiche de Carrefour avec un pêcheur à la mouche, avec ses cuissardes, dans une belle rivière, avec un moulin à eau à côté. Et puis c'est marqué « Truite fraîche de Carrefour, 1,10 €. » Et quel pêcheur va réussir à pêcher pour Carrefour à la mouche toutes celles qui seront vendues dans le magasin? Donc c'est un vrai mensonge, mais c'est tellement mensonger qu'on ne peut même pas l'attaquer pour publicité mensongère, parce qu'on vous répondra, il faut être trop con pour y croire. Et c'est vraiment ça, hein. On a essayé de vérifier comment on peut attaquer une publicité mensongère. Non, elle n'est pas, parce que ce n'est pas la réalité, mais que ça fait rêver. Et donc, il faut trouver d'autres moyens pour effectivement se prémunir un peu de cette vente de mensonges permanents.
Oui, et puis moi personnellement, j'ai de la peine. Je ne sais pas si vous avez vu ces dernières publicités de la Banque Claire, qui était en fait de la méta-publicité, où il disait explicitement « Cette affiche nous a coûté 2500 francs, alors maintenant parlons d'argent. » Et puis je trouve ça tellement ridicule de juste essayer d'accrocher les gens avec justement une vision par derrière de qu'est-ce que c'est la publicité. Ça, c'est une pub que je trouvais vraiment déplorable. Et puis la deuxième publicité, moi je suis particulièrement sensible à ce qui est manipulation émotionnelle. Et puis alors, pour le coup, c'est un peu ambigu, parce que c'est une publicité pour une assurance vie où il y avait deux enfants devant une tombe. Il y avait écrit « Et après ». Et c'était vraiment, je trouve, tellement horrible comme sensation de culpabilité qu'on pouvait donner aux parents pour les encourager à souscrire une assurance vie. Et je trouvais ça mais vraiment ridiculement déplorable et terrible sur le plan émotionnel et de la manipulation. Ça, c'est vraiment des choses qui me touchent beaucoup. Puis moi, à titre personnel aussi, je pense que comme... 20-30% de la population, j'ai un peu des troubles de l'attention, et c'est vrai que pour cette raison, je suis particulièrement sensible aux publicités. Je n'arrive pas à ne pas les regarder. Beaucoup de gens nous disent je ne les vois pas, mais je crois que qu'on les voit consciemment ou qu'on les voit inconsciemment, on les voit toujours, elles s'inscrivent toujours dans notre cerveau. Moi personnellement, je sais que je les vois consciemment, d'autres probablement les voient inconsciemment. Donc voilà, ça c'était aussi ma petite histoire personnelle pour expliquer comment j'en suis arrivée là. Et puis voilà, je crois qu'on arrive au bout. On se réjouit d'avoir vos questions. Juste avant qu'on passe aux questions, si jamais j'ai une feuille où vous pouvez inscrire vos prénoms et emails, si vous voulez suivre les activités anti-publicitaires, que ce soit sur n'importe lesquels des cantons romands. Et donc avant de quitter la salle, je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous inscrire.
Et puis encore une annonce. À la table, il y a effectivement la vente du journal Moi, qui est un journal... de réflexion sur la problématique l'incitation à la décroissance, sur l'écologie politique, qui est un journal qui est fait bénévolement, qui est assez remarquable, qui traite chaque fois sur le fond avec des thématiques. Alors il y a un numéro qui n'est pas là, mais qui traitait justement de la publicité. On l'aura pour, parce qu'il faut faire les fonds de tiroir de ceux qui n'ont pas encore été vendus, on l'aura pour Alternativa, l'estan au bastion samedi.
Voilà.
Sinon, vous pouvez les commander généralement par Internet.
Puis on attend vos questions.
Est-ce que vous pourriez me donner un peu de l'étude, la corrélation entre l'investissement publicitaire et le bien-être?
Oui. Est-ce que je l'ai ici? La référence. Eh bien, ah oui, 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 elle est là. Elle est là. C'est Michel Sowinski de Mannheim University et Oswald.
On la trouve sur Internet.
On la trouve sur Internet, ouais. C'est... Si vous trouvez... si vous cherchez... dépenses publicitaires et bonheur 2019, je pense que vous allez la trouver. Mais peut-être notez juste Oswald, O-S-W-A-L-D.
Ça, c'est l'université ?
Non, c'est un des noms de, d'un des auteurs.
D'accord. Oui. Ma deuxième question, c'est la citation que vous avez faite ensuite. J'ai pas le nom.
Alors, c'est Patrick Vivret, qui était à la Cour des comptes de Paris, mais qui a écrit plusieurs bouquins et qui est... effectivement, beaucoup impliqué dans des logiques de transition intérieure, bien entendu de la logique des villes en transition, de la manière dont on pourrait réorienter la société et les humains vers une vie, je dirais, plus frugale, mais certainement aussi plus heureuse. Et il a écrit plusieurs bouquins, il a une réflexion qui est tout à fait passionnante. Il est venu plusieurs fois à Genève. Il était là, si je ne me trompe pas, lors du premier Alternativa, et même avant. Voilà, Patrick Vivret, V-I-V-E-R-E-T.
De rien. J'avais une question, si votre initiative touche uniquement la ville de Genève ou également
oui.
Le canton.
Parce non.
Que le canton, il est aussi impacté par
oui.
Les publicités, parce qu'il y a beaucoup de villes.
Tout à fait.
Dans le canton de Genève.
Alors,
c'est pour la ville de Genève.
C'est un choix tactique.
Okay.
Pour deux raisons. D'une part, si on parle de publicité et de paysage, la ville de Genève, qui est un écrin touristique intéressant, a plus d'importance que la zone industrielle et commerciale de Vernier. Alors, il y a des gens qui vont vous critiquer en disant, bah, effectivement, en interdisant la publicité dans la ville de Genève, vous allez augmenter celle qui est aux alentours. Certains disent que c'est ce qui est arrivé à Grenoble, quand Grenoble a décidé de supprimer la publicité en ville de Grenoble, et puis ils disent que ça a été transféré sur d'autres supports. L'autre raison, c'est que c'est plus maîtrisable dans une logique de démarrage d'une initiative, parce qu'il ne faut que 4000 signatures. Alors bon, il faut, quand on est dans un événement, ben, rencontrer des citoyens de la ville de Genève et pas de l'autre. Et puis dans d'autres communes, c'est le cas de la mienne, à Puplinge par exemple, on a voté une motion au niveau du conseil municipal que j'ai présentée, qui supprimait les 3 panneaux publicitaires qui sont sur la commune.
Mais...
Dans une situation où l'impact économique sur le budget de la commune n'est pas énorme, il n'est pas énorme non plus si on regarde en pourcentage sur la ville de Genève, et puis bah, il suffit qu'effectivement un conseil municipal majoritairement décide.
Oui.
Et puis ensuite, en respectant le contrat, ça signifie que les panneaux sont toujours là, mais l'année prochaine, je pense qu'ils ne seront plus là. Une fois que le contrat en cours sera terminé.
C'est-à-dire surtout aussi, comme tu dis, tactique, mais aussi surtout, disons, logistique et légale, parce que, a priori, c'est une compétence communale de déterminer le statut, l'état de l'affichage publicitaire. On est dans un espèce de flou légal actuellement, parce que c'était aussi une des questions de savoir... Est-ce que c'est une compétence communale ? Est-ce qu'on sait une compétence cantonale ? Il n'y a aucune jurisprudence, aucune décision de justice qui nous donne la réponse à cette question. Donc, dans le doute, on s'est plutôt dit, OK, on va se baser sur ce qu'on a comme loi, c'est-à-dire c'est la compétence de la commune. Et puis, si parce que voilà, c'est ça aussi l'idée, c'est que d'autres communes, comme Puplinge, mais aussi...
Preuzinge,
il
y en a peut-être d'autres maintenant qui l'ont fait, puis il y a des grandes communes qui vont se lancer là-dedans.
On a déjà dit, on ne veut plus de publicité, Carouge non plus n'a plus de publicité comme
ça,
non ?
Pas.
Il me semble. En tout cas, dans la ville, dans la vieille ville.
C'est du travail.
Voilà.
Mais rien n'empêche, à un moment, de faire une démarche cantonale, voire fédérale. Ça permet aussi d'avoir des précédents.
Oui, c'est ça.
Je pense qu'aujourd'hui, on a plus de chances. En tout cas, l'accueil de l'initiative par rapport à ceux qui ont voulu la signer, il était très bienveillant. Moi, j'ai fait signer plusieurs initiatives. Je crois que c'est une dans lesquelles je disais « Ah oui, la publicité, ça m'énerve, je signe volontiers. » Et puis, oui, je pense que ça nous touche assez directement, de différentes manières. Alors après, dans la discussion, justement, le recourant, il dit « Oui, non, mais il faudrait interdire les mauvaises pubs et pas les bonnes. » Ou alors il aurait fallu, on avait eu une discussion sur la réduction plus ou moins drastique des mètres carrés publicitaires. Et puis cette forme-là permet à la ville de décider quel panneau pour quelle information. Mais si vous prenez par exemple les informations événementielles faites par des associations ou autres, c'est généralement des affiches plutôt petites, du format A0, dans laquelle il faut se rapprocher pour savoir de quoi ça parle. Parce qu'il y a des dates, parce qu'il y a des chiffres. Alors que si c'est Heinz et Moritz, et puis que c'est un logo, et puis marqué 17,50, vous pouvez la voir très loin, même si elle est petite. Mais, et donc, de ça, ils ont les moyens d'acheter des plus grands. Donc, on part du principe que mathématiquement, le paysage va être amélioré, tout simplement parce que les grands panneaux vont être supprimés, ou que sinon, ils n'auront pas preneur.
Mais les panneaux qu'on a habituellement pour afficher, par exemple, pour les associations, des affiches.
Ah, ceux-là, ils resteront. Alors, voilà, ce qu'on appelle les colonnes Maurice, qui sont déjà dans ce mécanisme-là, du format A0, ceux-là resteront. Mais ce qu'on espère, c'est que si, parce qu'il faut se rendre compte que si les recours n'aboutissent pas et qu'on finit par voter, qu'est-ce qui va se passer? Le conseil municipal va se réunir et va proposer ou non un contre-projet, ou proposer de voter contre l'initiative, ou même pourrait dire, nous allons la mettre en œuvre, il n'y a pas besoin de voter. Donc tous ces cas de figure existent encore. Oui ?
Mais techniquement, vous avez comment cette conversion ? Admettons que vous gagnez effectivement votre combat, ouais. Est-ce que vous imaginez une suppression pure et dure de tous les panneaux d'affichage ? Ou une reconversion de ces panneaux pour les buts de non-conversion. Et dans ces cas-là, est-ce que ce serait toujours une entité privée qui gérerait ces espaces publicitaires, ou est-ce que ces services devraient être attachés plutôt à la ville ou au canton?
Nous, on ne s'est pas prononcé sur les détails. Parce qu'on ne doit pas, dans une initiative communale, déterminer les détails de la mise en œuvre. Ce qu'on avait, je crois, envisagé, c'était effectivement une réintégration dans la sphère publique de cette compétence de l'affichage, qui se limiterait en fait assez peu à, disons, plutôt un acte de régulation, puisque finalement, ce serait plutôt aux associations et aux entreprises culturelles de se charger de l'affichage, ou bien s'il y a toujours un réseau officiel d'affichage par le biais d'une agence publique ou de choses comme ça. Je pense que c'était plutôt comme ça qu'on l'avait envisagé. Mais après, encore une fois, nous, on n'aura pas... Peut-être on sera consulté pour expliquer nos avis, mais l'allocation du budget et tout ce qui retient de la façon dont ce sera mis en œuvre, c'est vraiment une compétence exécutive de la commune et en aucun cas une compétence législative qui s'apparente à notre compétence en tant que corps électoral. Est-ce que ça répond à votre question ?
Il est vrai que c'est actuellement une concession publicitaire.
Oui.
Dans lesquels vous avez des gens qui ont postulé sur des appels d'offres pour pouvoir le faire, parce qu'ils estiment que c'est rentable et intéressant. Et puis la ville le fait parce qu'elle se dit ça me coûte plus cher de le faire moi-même. Et puis là, je vais avoir des revenus et puis permettre aussi de pouvoir intervenir et mettre à disposition certains panneaux gratuitement pour certaines associations. Ou non. Dans une situation comme celle-là, il y aura certainement un groupe de travail qui va plancher, réfléchir et puis voir comment les choses se construisent. Parce que les panneaux sont propriétés de la ville.
Oui, ça c'est important. Ça.
Matériellement.
C'est pour ça que j'ai
pas le papier, mais les panneaux. Et donc l'analyse va être quels panneaux on garde. Si par exemple on dit qu'on va garder des panneaux pour pouvoir permettre l'expression citoyenne et autres, il faut qu'ils soient à portée de main. Et puis situé dans un endroit où il y a peut-être cette dynamique citoyenne. On ne va pas dire celui qui est en haut de l'immeuble à gauche et qui n'est pas très grand, vous pourriez aller si vous avez la capacité de grimper au mur comme une araignée.
Oui, donc il y aurait
voilà ce qui va changer.
Sorte de reconversion. Mmh. Il y aurait une sorte de reconversion probablement, tout en tenant compte, on l'espère, de la question de dégager l'accès piétonnier au maximum pour les personnes en situation de handicap. Mmh. En tenant compte de ça, bien sûr.
Est-ce qu'on a une idée quel est l'impact de la publicité nocturne sur la pollution lumineuse ?
Tu en as parlé, hein ?
Alors, actuellement, si je ne me trompe pas, en tout cas sur Genève, il y a peu d'affiches qui sont rétroéclairées. Hein, elles sont très limitées. Par contre, ce qui sont les éclairages nocturnes, je pense que sur la biodiversité, par exemple, ou sur les chauves-souris ou autres, l'éclairage public a beaucoup plus d'impact que l'éventuelle luminosité d'un panneau publicitaire. Par contre, il y a effectivement, vous avez une association qui s'appelle La Nocturne, qui travaille d'une part à protéger et offrir des nichoirs pour les chauves-souris, par exemple, et qui fait tout son travail sur la pollution lumineuse.
Mais il y a quand même beaucoup de panneaux lumineux. Sur toute la route de Chelles, les panneaux sont lumineux, par exemple. La route du 12, le tram.
Peut-être.
Oui, ça c'est les logos.
Alors sur les toits, c'est encore autre chose. Il y a une grosse discussion. Moi j'ai participé à,
oui, mais c'est visible depuis
à un film qui a été fait sur cette question-là, mais je crois qu'il n'y a pas encore passé à la télévision. En tout cas, je ne suis pas au courant. Et qui justement, parce que les annonces de la rade, vous avez les gens qui vont dire ça fait partie de l'image de la rade et de Genève. Donc on me posait la question, c'est que des banques, des hôtels sur leur et des horlogers, hein, il n'y a rien d'autre, sur tout pour tout. On ne sait pas les tarifs. C'est une seule agence qui s'occupe de ça en termes de deal, mais ça concerne les propriétaires d'immeubles. Et puis quand on posait la question en disant oui, mais c'est l'image de Genève, je dis vous payez deux ou trois bons artistes lumineux, puis vous faut quelque chose de mieux sans marque. Donc c'est bien qu'il y ait des intérêts financiers derrière. Mais. Ni le canton ni la ville ne touchent de l'argent pour ces publicités-là. C'est entièrement en main privée.
C'est très peu réglementé. Hein. Voilà. C'est très peu réglementé. On ne comprend pas très bien le statut de ces.
Et c'est particulier à Genève. Hein. Les autres villes, Lucerne n'est pas comme ça. Zurich, pas trop non plus.
Ouais, on ne s'est pas trop penché sur la question parce qu'effectivement, la ville n'a que très peu d'implications. Et d'impact possible de régulation. J'imagine que ce serait possible de réguler ça, mais actuellement, il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place pour réfléchir à cette question de pollution lumineuse. Mais en tout cas, je sais qu'en France, paysages de France sont très impliqués dans la question de la pollution lumineuse. Ils ont un slogan qui est « Débranchons les pubs, rallumons les étoiles ». Et puis... Oui, c'est vrai que nous, on ne s'est pas particulièrement penché sur cette question de pollution lumineuse, mais bien sûr, elle est conjointe à notre combat.
Oui, à ce propos, moi, j'habite à Berne, à Mérin, et juste à côté de l'autre côté de la frontière, on a un nouveau centre commercial à Pernet, où c'était assez choquant, il y avait un énorme écran LED qui projetait la nuit. Et en effet, la question de la pollution lumineuse était vraiment sautée aux yeux. Donc on peut se dire que c'est aussi peut-être qu'une question de temps, malheureusement, si on n'imagine pas, pour qu'on voit de tels panneaux surgir dans nos villes.
Mais vous le voyez déjà dans certaines vitrines. Je ne sais pas si vous avez été à Bel Air. À Bel Air, à 360 degrés, il y a des écrans partout dans les vitrines. Et de plus en plus, les commerçants commencent à mettre des écrans dans les vitrines. Et en termes d'effet sur le mental et sur la capacité à s'endormir et sur la régulation du sommeil, c'est catastrophique. Et j'ai hâte qu'on parle de ces questions-là aussi, des écrans dans l'espace public. Parce que, gentiment...
Mais pour le moment, en tout cas, dans l'espace public, il n'y a pas d'écran LED lumineux ou d'image, sauf à l'aéroport et dans la gare,
oui, mais
dont
le
questionnement de l'espace public n'est, n'est pas évident parce que la gare reste, entre guillemets, les CFF sont propriétaires d'une partie de l'infrastructure, c'est un peu plus compliqué. La même chose pour l'aéroport. Et donc là, par contre, on n'a pas de publicité lumineuse, comme vous pouvez voir à Londres ou à Paris. Et puis aujourd'hui, les systèmes font qu'on peut déjà avoir un panneau publicitaire qui, en interprétant la silhouette de celui qui le regarde, va changer la publicité. Et si c'est une maman avec une poussette, on fera de la publicité pour les bébés. Il suffira de passer devant pour que la publicité change. Donc ça fait partie des mécanismes de l'intelligence artificielle. Nous, on se bat pour des affiches, les gens vont dire c'est un combat d'arrière-garde, parce que de toute façon, vous êtes déjà capté par votre smartphone et qui vous envoie toutes les publicités qu'il veut, y compris éventuellement certaines subliminales qu'on ne voit pas passer, mais on ne sait pas comment elles étaient faites à un moment où on a cliqué ou pas.
Parce que là, il y a la notion du beau dans l'espace public. Je pense que vraiment, il y a la notion de ce qu'on nous impose et du beau.
Tout à fait.
Quand vous disiez, quand vous parliez de ce qu'on veut convertir, ces panneaux, dans quelque chose, alors oui, on peut penser à l'affichage ou à des événements publics ou à caractère culturel, mais on peut aussi penser, je ne sais pas, tout simplement à des œuvres d'artistes qui apporteraient vraiment du bonheur. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me choque beaucoup, c'est que la publicité, elle joue, comme vous disiez, beaucoup sur l'émotionnel, hein, le bonheur, même l'amour, beaucoup. Mais en fait, comme vous le disiez aussi, elle nous apporte quelque chose. Mm-hmm. Et moi, je voulais juste vous dire une chose, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a un texte international qui limite la publicité, et d'ailleurs ça me concerne assez de près en ce moment, parce que c'est pour les laits infantiles. Mm-hmm. Et c'est le code de commercialisation des substituts des maternels, qui malheureusement est quasiment pas appliqué par aucun pays, vraiment correctement, mais enfin en tout cas il existe. Et ma question, je vais vous poser la question parce que j'ai entendu récemment, je ne sais pas si vous l'avez dit au début de la présentation, mais je n'étais pas là, mais j'ai entendu que la publicité, c'était le deuxième poste de dépense au monde après les armes. Mm-hmm. Alors j'étais vraiment surprise. Je ne sais pas si vous en avez parlé.
Non,
alors je l'ai cherché, il y avait effectivement des données qui avaient été citées une fois par Vivre que j'ai essayé de retrouver. Je ne suis pas un spécialiste, disons, de la navigation sur Internet, mais en allant un peu rapidement, on disait dépenses militaires mondiales 2016, 1675 milliards. Après, la pharma en général était à 1000 milliards en 2014, et puis la publicité à 505 milliards de dollars. Après, il faut savoir quel marché publicitaire ? Est-ce que la publicité interne propre faite par une entreprise est dedans, ou est-ce que c'est un marché lié aux sociétés qui se chargent de faire de la publicité ? Mais effectivement, on est généralement... puis après, la drogue, elle peut se situer probablement aussi entre les deux. Donc voilà, effectivement, on est sur des montants extrêmement importants au niveau mondial.
Oui, et puis ça continue d'augmenter. Hein,
et on le paye.
Surenchère publicitaire.
Et puis au-delà de ça, ça pose vraiment la question du choix de société dans lequel on est, parce qu'aujourd'hui on parle d'une société qui va vers l'effondrement, où le mode de vie hyper consumériste sont vraiment remis en question. Enfin, en fait, la publicité, bon, bah, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais elle entretient ça, mais elle suscite ça. Et donc c'est vraiment le bras armé, quoi, de notre société qui nous mène vers la ruine.
Mmh. Oui, il y a des penseurs qui disent que les trois piliers de la surconsommation, c'est le crédit à la consommation, l'obsolescence programmée et la publicité, qui fonctionne en trio, en fait, hein, parce qu'on a besoin de la publicité pour avoir besoin pour avoir l'impression d'avoir envie de ces produits. On a le crédit à la consommation qui nous permet d'acheter à ces produits, même à crédit. Et finalement, l'obsolescence programmée qui nous dit « Ah ben non, votre produit est déjà désuet, il vous en faut un nouveau !» Donc vraiment, on voit bien, la logique de ces trois piliers. C'est sympa, merci d'avoir soulevé ça. Ouais, je suis d'accord, c'est une vraie question.
On peut aussi voir comment la publicité a but, disons, d'écraser les services publics. Par exemple, cette publicité pour l'assurance vie, on a une assurance qui s'appelle EIS et survivant, AVS, qui est tout à fait insuffisante, mais si elle était suffisante, il n'y aurait pas d'orphelin dans le besoin.
Tout à fait. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Si vous prenez, typiquement, nous, on a fait plusieurs activités anti-pub sur les trams et les transports publics, hein, sur le même logique qui disait « notre regard n'est pas à vendre ». Alors, elle ne pouvait pas être directement là. De nouveau, une initiative municipale, ville de Genève, ne touche pas les TPG. Puisqu'on ne va quand même pas arracher les affiches quand ils traversent la frontière d'une commune à l'autre. Donc, ça deviendra un peu compliqué. Donc, ça, effectivement, et aujourd'hui, on est passé de 2-3 trams qui font de la publicité à pratiquement tous les transports publics qui vendent leur surface. Et on ne vous a pas dit, en faisant ça, ça va réduire de moitié votre billet de bus.
Oui, c'est flagrant, hein, comme en ville, il y a une dépendance du mobilier urbain à la publicité de plus en plus. Et je sais qu'en Belgique, ils se sont retrouvés dans une situation où ils étaient tellement dépendants du mobilier urbain que maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et la publicité a dépensé pour les abribus, a dépensé pour toutes sortes d'escaliers, d'escalators, de parkings, etc. Je veux dire, si on devait racheter la totalité des installations urbaines aux entreprises publicitaires, dans beaucoup de cas, ça coûterait énormément. Et puis on voit, je ne sais pas si vous avez vu récemment dans les stations de ski, ça commence à être le cas. Hein, les télésièges commencent à être financés par les publicités, énormément de cabines. Enfin, je crois que c'est important en amont de réfléchir à la dépendance à la publicité du mobilier urbain et de notre environnement de vie. C'est central.
C'est encore moi.
Pas de problème. Sauf si quelqu'un dit « Ah non !»
C'est vrai qu'à Grenoble, c'est sans publicité.
C'était une promesse du maire élu le vert, qu'il avait annoncé avant, et donc qu'il a mis en œuvre, et qui effectivement, dans la ville de Grenoble, qui est circonscrite, à supprimer la publicité.
Alors voilà, c'est là où on en est, justement, quand je parlais de la dépendance au mobilier urbain. Eux, ils ont décidé de faire ça progressivement. Donc déjà, ils ont supprimé toutes les publicités qui appartenaient effectivement à la ville ou qui étaient juste posées au milieu de nulle part. Mais par contre, les abribus, comme ils n'ont pas les fonds pour racheter immédiatement la totalité des abribus, ben, ils font ça progressivement. Donc il y a beaucoup moins de publicité, mais pas du tout encore, mais c'est une promesse qui s'est donnée dans les 5 prochaines années, je crois. Voilà, et aussi au Vermont, dans le Vermont, ça fait depuis les années 60 qu'ils ont dit on ne veut plus de publicité dans notre État, donc ils ont totalement supprimé la publicité. Il y a quand même quelques villes qui se sont positionnées dans ce sens-là. Oui.
Et puis il y a Cuba aussi, je pense que c'est un d'entre ils sont allés, c'est assez impressionnant parce que c'est un état où alors il n'y a pas de publicité, il y a des messages,
la publicité politique,
voilà. Mais disons que c'est assez libérateur parce que c'est quand j'allais dans un pays, voilà, on est sur des routes et on n'a pas ces panneaux, ces trucs dans les villes.
Sao Paulo au Brésil aussi a supprimé la publicité.
Pardon ?
Sao Paulo au Brésil aussi a supprimé la publicité en panneau. Alors ça laisse de nouveau, ça laisse les publicités dans les devantures de magasins ou autres, mais là en même temps, c'est quelqu'un qui fait de la publicité pour dire venez chez moi parce que vous êtes intéressé à acheter. Ce qui est très différent que de vendre de l'espace public pour annoncer des choses qui n'ont peut-être même plus ou moins rien à voir avec la ville.
Oui, et puis il n'y a pas cette logique de possiblement de répétition à outrance du message qui constitue l'essence de la publicité et qui est vraiment la plus impactante pour notre mental, la formation de la colonisation de notre imaginaire, ça c'est un terme qu'on utilise beaucoup aussi, la formation des préjugés, depuis tout petit, hein, on est déjà façonné par les standards de beauté, les critères de réussite, et c'est en grande partie la publicité qui fabrique ces stéréotypes. Alors, d'une certaine façon, probablement que ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais si on peut du moins laisser aux parents le choix de soumettre et quand soumettre leurs enfants à la publicité, c'est déjà un pas en avant, je trouve. Et c'est ça aussi qui légitime notre combat sur l'affichage publicitaire et non pas sur la totalité de la publicité qu'on pourra dans tous les cas pas accéder.
Et puis, juste pour la petite histoire, j'ai été interviewé il y a un mois et c'est passé à la télévision suisse allemande lors d'une émission, justement, qui disait que Genève faisait une initiative, etc. Et on avait présenté une des affiches qui, moi aussi, me choquait, c'est Coca-Cola qui vous dit « Bienvenue à Genève ». Je trouve quand même, vous voyez, parce qu'elle est maintenant encore sur les trams et partout, je veux dire, de quel droit c'est une marque qui vous annonce que vous êtes bienvenue dans le canton de Genève et ses environs. Je trouve ça, je trouve que c'est une usurpation d'un devoir de citoyen que nous aurions de dire aux gens qui viennent à Genève, bienvenue.
On prend encore peut-être deux ou trois questions. Qui c'est qui a encore envie de poser des questions? Deux? Très bien, vas-y.
Oui, ça rebondit exactement avec la Coca-Cola. En fait, c'est les financements en fait, des structures, on va dire, publiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Tournai, donc juste à l'entrée de la tonne de Moissy-là, quand on arrive, on a accueilli par carnage maintenant qu'elle ne voulait pas. Et du coup, à quel point est-ce que justement les structures publiques et les fonds privés peuvent être
affectés?
Est-ce que ça se faisait déjà avant? Ou enfin, vous savez qu'il y a la fondation Windsor avec Rolex, le pont, des choses comme ça, mais où c'est clairement affiché tel quel? C'est la première fois en tout cas que je vois ça et qui saute autant aux yeux. Mais...
Alors la particularité là, c'est probablement un partenariat public-privé, mais Carandache, l'usine Carandache est en place à cet endroit-là. Alors, elle a peut-être même cédé un peu de terrain pour permettre aux trams de tourner et autres. Alors, et donc, ils ont négocié en vous disant, on vous finance un peu de ça, de la même manière que le pont Wilsdorf aurait pu s'appeler pont Rolex, parce qu'il a été payé par la fondation Wilsdorf, mais... Il offre tellement de moyens.
Moi, mon interprétation de ça, c'est que les autorités ont tout, d'une certaine façon, intérêt à vendre cet espace public aux entreprises pour qu'elles fassent leur publicité, parce que c'est des rentrées d'argent pour eux. Donc, pour nous aussi, et voilà, pour répondre à ceux qui nous disent que c'est un combat d'arrière-garde, pour moi, c'est aussi une question de donner un signal fort aux autorités et de leur dire non, on refuse d'être simplement juste réduits à notre rôle de consommateur dans l'espace public. On refuse que notre attention soit vendue à tort et à travers dans les trams, qu'on n'ait plus d'espace pour être libre et penser à ce qu'on a envie de penser dans l'espace public. On a envie de se réapproprier notre espace public. Et ça participe de toutes les logiques de location, d'utilisation de l'espace public à des fins commerciales. Et je crois que là-dessus, on doit aussi essayer d'une certaine façon d'envoyer un courrier à la commune pour leur manifester notre mécontentement. Il y a toutes sortes de moyens hein, qu'on peut utiliser à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle. Nous, on a choisi l'initiative, mais avant, nous, avec le GLIP, on faisait toutes sortes d'actions. On allait parler avec les gens dans les marchés. On essayait de faire de la sensibilisation auprès des enfants, etc. On a toutes sortes de projets encore. Donc, il y a mille façons de manifester notre mécontentement et je t'encourage à le faire si ça, ce rond-point t'agace, à écrire à la commune de Tenay pour leur dire « Hey, j'ai le droit d'avoir le droit de passer autour de mon rond-point sans être forcé de penser à Carandache. »
C'est surtout si la différence entre location et là, je pense que c'est plus vraiment de location, ils doivent être propriétaires s'ils ont payé.
Non, en fait, il n'y a pas vraiment possibilité, c'est très rare, hein, de vendre de l'espace public à proprement parler. C'est souvent de la location, mais d'ailleurs, dans les ronds-points en général, bah, en tout cas, moi, je connais les ronds-points, il y a des œuvres d'art, il y a toutes sortes de choses.
Des aménagements de plantes.
Oui. Dernière question? Non?
Alors, moi, c'était juste pour, ça rejoint un peu la question d'avant, mais comment nous allons faire, en espérant que ces initiatives passent et que ça soit mis en application, je n'ai pas tout à fait compris comment on va définir qu'est-ce qui est une association qui aura le droit de mettre en place de l'affichage ou quelque chose de culturel, parce que souvent, les choses sont souvent assez mélangées, il y a un peu public-privé et tout cela. Et ouais, juste.
Alors ça, c'est voilà. À la ville de faire un règlement d'application. Nous, on a envie justement de laisser un peu cette liberté parce que, comment dire, si vous faites de la publicité pour le Cirque Ni, bon, on peut aimer ou pas aimer le Cirque Ni, mais en même temps, je veux dire, c'est pas une société qui fait des millions. Et si la ville de Genève, qui a déjà fait un tarif préférentiel pour que le Cirque puisse s'installer sur la plaine de Plainpalais sans payer ce que paierait, entre guillemets, une multinationale qui voudrait faire un événement, ben ça puisse se faire et qu'on puisse... Alors justement, le recourant dit, vous avez un texte qui est trop dur et qui ne permettra pas les exceptions. Alors que nous pensons qu'effectivement, la ville de Genève peut définir un règlement qui permet les exceptions. Et effectivement, le fait aussi de tenir compte du paysage et peut-être de dire, ben, de ce fait-là, vu la priorité du paysage, nous n'allons plus faire des grands panneaux. Et ben, ça permettra d'avoir une situation plus discrète dans laquelle aussi certains annonceurs y verront comme quelque chose qui est plus intéressant, même s'il est de l'ordre de l'événementiel. On ne sait pas, il y aura de toute façon des reports. Je ne pense pas que le fait que tout d'un coup les commerciaux ne puissent plus afficher, ils vont dire « Ah ben on va réduire notre budget comme publicitaire de temps ». Non, ils vont reporter les choses.
Si tu peux rajouter un truc. Deux choses en fait. Moi personnellement, si on me demandait mon avis, et dans une logique d'éviter la surconsommation, je dirais qu'on doit faire d'une certaine façon une distinction entre les biens de consommation individuelle et les biens de consommation collective. Parce que la publicité commerciale souvent promeut des biens qui sont à consommer individuellement par chaque personne. Alors que l'événementiel, le culturel, sont des choses qui se consomment collectivement, qui sont souvent produites localement, qui produisent très peu de déchets, qui fournissent de l'emploi local, et donc qui, a priori, ne participent pas à la surconsommation. Ce n'est pas une notion légale, juridique qui existe, mais je pense que c'est une notion qui fait assez sens au regard de la logique pour éviter, en tout cas, la surconsommation. Et puis, la deuxième chose qui était intéressante de savoir, j'ai été à une conférence d'un type de la SGA, une fois, qui a dit qu'avant qu'on ait les panneaux comme ça grand, etc., ils avaient décidé, au moment où ils avaient décidé de réguler l'affichage, que toutes les affiches devraient avoir le même format, et il me semble que c'était maximum 80 cm. Parce qu'ils disaient, c'est ça qui est démocratique. Le caractère démocratique de la publicité tient du fait que chaque entreprise, quelles que soient ses ressources, quelles que soient ses capacités financières, ait le même accès à la publicité et n'ait pas la possibilité d'être plus visible que les autres sur un même emplacement en tout cas. Et je trouve cette notion assez intéressante. Et après, ça a vraiment... c'est totalement perverti, je dirais.
Ça a dégénéré.
Les grands formats dégénéré, exactement. Les grands formats ont pris de plus en plus d'ampleur, mais je trouverais ça aussi intéressant de dire, OK, vous voulez de la visibilité, mais vous n'en aurez pas plus que les autres. Et ça réduit beaucoup aussi la contrainte visuelle, parce qu'on doit vraiment s'approcher pour lire c'est les informations qui sont contenues sur l'affiche.
Les banderoles qui sont des fois affichées sur vous, typiquement juste le pont qui est là, et des fois des banderoles.
Ça, c'est culturel aussi, en général, événementiel.
Oui, ouais. Ça restera.
Oui, ça, c'est comme les communes qui autorisent pour un événement X ou Y, on plante des choses. Après, vous avez certains passe-droits dans la publicité politique, hein, où on plante son panneau quand il y a des élections à côté de la. Alors. En théorie, c'est toléré parce qu'on est en campagne politique. Mais effectivement, tout le questionnement, alors c'est un autre questionnement, le financement des partis ou la publicité qu'on voit maintenant avec les élections fédérales, vous avez des gens qui ont les moyens de mettre leurs photos sur les trams et autres. Ils le payent relativement cher, mais on est plus lié au fait d'avoir, entre guillemets, des partis politiques qui ont plus de moyens que d'autres ou des candidats qui ont plus de moyens que d'autres et qui pourraient s'acheter... leur tête en très grand sur le tram.
On s'arrête là. On a fait des petits résumés de ce qu'on a dit ce soir, si vous voulez prendre. Chez vous, vous pouvez, si vous voulez, écrire votre email ici.
Et le journal Moins est au prix libre.